Excuse monsieur, nous n'avons plus du tout de croissant.
Là, je suis en train de le rouler. Je sens la douceur de la pâte.
Vous avez qu'à me donner un café nature, alors, avec deux croissants. Je vous dis que les croissants, nous n'en avons plus.
On voit les différentes couches de beurre successives et de pâte. C'est un plaisir.
Tu as besoin de quelque chose?
Oui, un grand bol de cidre avec des croissants chauds.
Je vous dis que les croissants, nous n'en avons plus.
Ces croissants-là, demain, ils vont être fêtés. Si tout va bien, ils devraient être beaux.
Votre vie va se résumer à des croissants et du sexe.
C'est surtout croissants.
Des bretzels, des brioches, oui. Les croissants, non.
Si on bouffe plus de croissants, monsieur le principal, on se tapera des biscottes, on se fera une raison.
Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur le plateau dont on va déguster. Depuis Fernand Reynaud jusqu'à Emily in Paris, la série phénomène de Netflix, le croissant est bien une star, un symbole, un totem qui définit en deux syllabes et trois bouchées bien beurrées notre identité de français. Qu'est-ce qu'un bon croissant? Comment démêler son histoire vraie des nombreuses légendes plus ou moins farfelues qui l'entourent? On répond à ces questions avec notre experte du jour, c'est Marie-Laure Fréchet. Bonjour.
Bonjour, François Régis.
Merci Marie-Laure d'être venue jusqu'à nous. Vous êtes lilloise, on vous avait reçu il y a exactement un an, vous vous souvenez, pour une leçon de pain à la maison, à l'occasion de la parution de votre encyclopédie du pain maison aux éditions Flammarion. Et cette année, vous remettez le couvert, toujours chez Flammarion, avec ce très bel objet que j'ai à ma droite, l'encyclopédie de la viennoiserie maison, une somme de références pour s'initier à la viennoiserie à travers de nombreux pas à pas et des recettes illustrées. Vous tombez pile poil comme il faut pour le confinement.
Oui, c'est pas fait exprès. Mais...
même si avec les librairies, bon, il y a le click and collect, il y a la vente en ligne de livres.
Voilà, on peut encore tout à fait commander des livres chez son libraire.
Absolument, et on va voir avec vous qu'au-delà du croissant, alors, qui est un truc de pro à faire à la maison, même si vous y êtes essayé, certaines viennoiseries sont tout à fait réalisables et on en a une illustration sur ce plateau.
Voilà, tout à fait. Donc effectivement, je ne me suis pas lancée dans le croissant aujourd'hui parce que le croissant, c'est, on va tout à l'heure en discuter avec Frédéric Roy, comme il le dit lui-même, c'est la chose la plus simple à faire et la plus facile à rater. Voilà.
Et là, donc, on a du coup, en compensation, des viennoiseries maison voilà, un peu donc, plus simples à faire.
Donc, je vous ai ramené un chinois, une brioche mousseline, un peu à l'ancienne, ces grandes brioches hautes, et puis une façon aussi de manger la brioche le lendemain, le Bostock.
Ouais, formidable, on va en parler dans un instant avec une petite crème d'amande, tout n'est pas rose. Dans le monde sucré de la viennoiserie, il se pourrait même que notre pays ait mal à son croissant, mal à sa viennoiserie. 80% des croissants qu'on achète seraient même d'origine industrielle. C'est une réalité que dénonce celui que vous évoquiez il y a un instant, Frédéric Roy, boulanger, pâtissier à Nice. Il a pris la tête d'une croisade pour promouvoir et défendre le croissant maison. Nous serons avec lui en direct dans le courant de cette émission. Dans les fauteuils des chroniqueurs, notre chroniqueur Dominique Hutin et notre avocat gourmet Éric Morin. Bonjour les amis.
Et bonjour François Régis.
Cher Dominique.
Oui. Bah écoutez, vous m'avez confié tout à l'heure n'avoir pas pu petit déjeuner, donc pour ne pas rompre avec vos habitudes matinales, j'ai apporté du vin. Ça me fait plaisir.
Non mais je
rêve. Pas n'importe lequel, hein, ni blanc ni rouge, mais bleu blanc rouge pour rendre hommage à cette icône française qu'est le croissant.
Très bien, et ben on va voir de quel vin il s'agit, mais moi j'ai une petite idée, tout ce qu'on peut vous dire c'est que c'est pas croissant café aujourd'hui. C'est plutôt croissant Beaujolais. Enfin non, j'en ai trop dit. Éric.
Eh ben, est-ce que croissant ou fout le camp, on va mettre les pieds dans le pétrin et vous verrez, c'est pas obligatoirement joli à voir.
La plaidoirie de Maître Morin dans un instant. Si vous souhaitez intervenir dans l'émission, poser des questions, il y a déjà beaucoup de remarques et de réactions. Si vous voulez nous signaler aussi un bon croissant de tradition, envoyez-nous un mail à onvadéguster@radiofrance.com ou bien cliquez sur le bouton réagir depuis l'appli mobile de France Inter. Les recettes des viennoiseries maison signées Marie-Laure Fréchet, toutes nos infos pratiques, le podcast de nos émissions et le podcast de toutes nos chroniques sont à retrouver sur franceinter.fr à la page On va déguster.
France Inter, on va déguster avec François-Régis Gaudry.
Juste avant de croquer le croissant par tous les bouts, une pensée pour tous nos amis chefs, restaurateurs et restauratrices qui tirent la langue en ce moment en raison de la crise que nous traversons évidemment. Et la situation est d'autant plus critique que beaucoup d'entre eux sont sortis exsangues du premier confinement. Comment les patrons de restaurants réagissent face à la crise? Comment parviennent-ils pour certains d'entre eux à se réinventer? Je suis allé à la rencontre de Yann Le Pévédic, c'est le patron des Canailles, un bistrot sincère et intègre situé rue La Bruyère dans le quartier Pigalle à Paris. Ce bistrot était très très fort sur la cuisine française classique et vous allez voir comment il change radicalement de répertoire pour s'adapter aux circonstances.
Et voilà messieurs, vos deux menus, un menu shirashi, un menu tataki, les deux soupes miso et les deux salades de fruits.
Qu'est-ce que ça vous fait de commander japonais dans un bistrot qui est plutôt réputé pour sa cuisine traditionnelle ?
Ah ben moi j'ai confiance, je viens manger régulièrement ici, donc je pense que ça va être bon, il n'y a pas de raison que ça ne le soit pas.
Vous le faites parce que vous avez envie de manger japonais ou vous le faites aussi pour soutenir un établissement que vous aimez bien ?
Je le fais parce que j'ai l'habitude de venir manger ici et que je veux continuer à venir manger de temps en temps ici.
Merci.
Je vous en prie.
Ça fait très plaisir, merci beaucoup. Parce que c'est compliqué en ce moment, ça va l'être pendant quelques temps, donc on a vraiment besoin de vous. C'est lancé depuis le deuxième confinement dans cette formule japonaise. On s'est vraiment dit qu'avec le chef que cette cuisine était beaucoup plus adaptée à la cuisine à emporter que notre cuisine traditionnelle de bistrot. D'habitude, les spécialités ici au Kanai, c'est la tête de veau, les rognons, le foie, enfin, toute la cuisine traditionnelle française revisitée, belle cuisine bourgeoise. Bah, les retours sont plutôt satisfaits, les gens sont plutôt satisfaits, ils connaissent notre chef maintenant, Tetsu est là depuis 3 ans. Donc ils savent qu'il est japonais, qu'ils travaillent vraiment que du produit d'exception. Et ouais, ils sont plutôt assez intéressés de découvrir une autre forme de cuisine et puis une autre cuisine traditionnelle. Alors aujourd'hui, on vous a préparé des shirashi royal, poisson cru, mariné, servi sur un riz vinaigré. Vous avez en poisson du saumon, de la dorade, du bar et du poulpe. Et puis autrement, on a fait aussi un tataki de bœuf. Donc c'est un bœuf mariné, puis poêlé, servi aussi sur un riz vinaigré avec une sauce tataki. Il y a un petit dessert, une petite salade de fruits, des kakis marinés avec de l'ananas, de la grenade dans un sirop à l'anis étoilé. Et en entrée, on vous a préparé une soupe miso maison. Les produits viennent tous de Bretagne, le poisson directement du Guilvinec. On a gardé nos fournisseurs habituels, mais on retravaille les produits différemment, tout simplement. Si on est là, c'est qu'on garde espoir et on veut que ça s'arrête le plus vite possible. Donc là maintenant, qu'on retourne vite tous au restaurant.
Bon courage.
Merci beaucoup, merci.
Merci chef.
À bientôt, merci beaucoup.
On va goûter votre cuisine japonaise.
Ah oui, s'il vous plaît, un peu bonne dégustation. Dozo meshiagare. Bon appétit.
Je l'ai goûté, ce shirashi, et bien figurez-vous qu'il était généreux, parfait dans ses équilibres, d'une fraîcheur irréprochable, et ce shirashi royal est inclus dans une formule à 22 € avec une excellente soupe miso en entrée et une salade de fruits frais et de saison. Allez tenter, si vous le pouvez, la formule shirashi du bistrot Les Canailles de Yann Le Pévédic et de son chef Tetsuya Yoshida, 25 rue La Bruyère, Paris 9e, commande par téléphone du lundi au vendredi, au déjeuner et au dîner. Toutes les informations sont sur notre site internet. Éric Morin, vous êtes gourmet, vous fréquentez pas mal les restaurants, vous avez quelques initiatives à nous signaler de reconversion ou de réinvention?
Oui, que du testé, approuvé par votre serviteur. La plupart d'ailleurs vendent leurs bouteilles à prix caviste. Je pense à Tommy & Co et son chef Tommy Gousset, oui. Aux deux restaurant des frères Mimoun, Jaïs pour la semaine, le petit Célestin le week-end, d'ailleurs je passe chercher leur joue de bœuf bourguignonne après l'émission. Le Lièvre à la Royale, c'est la saison, celui du bistrot Flaubert goûté, approuvé hier soir, le meilleur de l'Italie avec Giovanni Passerini.
Et oui, bien sûr,
et enfin,
Passerini dans le 12e arrondissement.
Dans le 12e arrondissement, et enfin l'incontournable Café des Ministères, le vol au vent mythique chez vous sur votre table à Tire-d'Aile, et ben c'est possible.
Le vol au vent mythique signé Jean Sévène d'ailleurs, que nous retrouverons dans 15 jours, figurez-vous, le dimanche 22 novembre pour une émission autour de la mythologie du chou farci. Il se passe des choses, j'imagine, à Lille.
Oui, à Lille.
La ville que vous habitez, Marie-Laure Fréchet.
Évidemment, beaucoup de click and collect dans les restaurants lillois. Et puis, on peut citer aussi l'initiative de Florent Laden,
oui,
qui a poussé les tables et les chaises du Bloompot et l'a transformé en marché de producteurs. Voilà.
C'est ça. Et le Bloompot, on parle de son auberge à la campagne. Non, pas du tout,
à Lille.
On parle de son estaminet lillois. Ouais,
voilà.
Je confondais avec l'auberge du Vermont. Donc, le Bloompot qui est transformé en marché de paysans.
Marché de paysans, voilà.
Bravo, Florent Laden. Cette émission est réalisée en direct par Laurent Thomas avec à la technique Guillaume Roux, Margot Page pour la préparation et l'animation de notre page internet. Djoubaka s'est occupé comme chaque dimanche de nos choix musicaux. Il fait presque beau sur toute la France et Alain Souchon est jaloux du soleil. Bon appétit sur France Inter.
Jaloux du soleil. Jaloux du soleil. Impression, soleil levant, un frisson à l'éveil du vent, les heures tournant, colorant la cathédrale de Rouen, à Paris il lèche les toits, Marrakech, El Koutoubia, jaloux du soleil. Jaloux du soleil, jaloux du soleil. Les bimbo toc, les filles belles, les black blocs et les prix Nobel. Comme le roi soleil Louis, il croit que tout le monde est à lui. Mais le pire, c'est l'empire qu'il a sur ma Laura. Il n'a de cesse qu'il caresse Laura, ma Laura, jaloux du soleil. Jaloux du soleil. Jaloux du soleil. Jaloux du soleil. Moi j'attends dans le couloir. Moi j'attends son bon vouloir. Et lui, soleil malhonnête, il rentre par la fenêtre de Laura adorable, allongé sur son drap bleu. Jaloux du soleil.
On va déguster.
On se retrouve dans la rue, on le sent bien. La marche du retour ne sera pas la même. Le trottoir est moins libre, un peu embourgeoisé par cette baguette coincée sous un coude, par ce paquet de croissants tenus de l'autre main. Mais on prend un croissant dans le sac. La pâte est tiède, presque molle. Cette petite gourmandise dans le froid, tout en marchant, c'est comme si le matin d'hiver se faisait croissant de l'intérieur, comme si l'on devenait soi-même four, maison, refuge. On avance plus doucement, tout imprégné de blond pour traverser le bleu, le gris, le rose qui s'éteint. Le jour commence et le meilleur est déjà pris.
Les croissants chauds dégustés dans le froid, c'était un extrait de la première gorgée de bière et autres plaisirs minuscules, le best-seller de Philippe Delerme, publié en 1997 et réédité d'ailleurs dans une anthologie intitulée « Buveur de temps » aux éditions Bouquins. Et vous aurez sans doute reconnu la voix de notre ami Vincent Josse à la lecture. Vincent Josse qui nous donne rendez-vous pour un grand atelier consacré à l'écrivain Laurent Mauvignier tout à l'heure à 15h sur France Inter. Marie-Laure Fréchet, le croissant, ça se passe comment chez vous? Est-ce que c'est plutôt, comme dans le texte de Philippe Delerme, avalé à la hâte sur le trottoir, dégusté sous la couette au chaud?
Le croissant, oui, c'est un peu l'incontournable du petit déjeuner. Donc, d'abord, il en faut un qui se dévoue pour se lever un peu plus tôt pour aller les chercher tout frais chez le boulanger. Voilà, parce que pour les faire à la maison, on peut en discuter. Voilà, il faut se lever très tôt pour avoir une belle pousse. Et les avoir bien chauds, bien cuits pour l'heure du petit déjeuner vers 8 ou 9 heures. Ouais.
Car le croissant est bien effectivement une pâte levée. Pâte levée, feuilletée. Racontez-nous techniquement ce qu'est le croissant.
Oui, c'est ça. C'est une pâte levée, donc levée grâce à de la levure et ou du levain, et tourée, donc feuilletée.
Vous en mangez à quel rythme?
Pas trop. Pas trop, parce que voilà, c'est vraiment un aliment plaisir.
Et qui est quand même particulièrement riche, lipidique.
C'est quand même du beurre, du sucre, oui. Et de la farine évidemment.
Absolument. Pour ceux qui ont vu Emily in Paris, cette série dont on entend beaucoup parler sur Netflix, qui n'est pas avare en clichés sur la culture française, ils nous dépeignent, nous autres parisiens, mais également les Français plus généralement, comme des mangeurs de croissants, comme si on en engloutissait 4 ou 5 par jour. Les Français et le croissant, on a un rapport tout de même assez modéré face à ce totem de la viennoiserie.
Oui, effectivement. Alors, comment c'est devenu l'emblème du petit déjeuner français? Ça, je ne sais pas. Ça, c'est vraiment intéressant. Mais c'est vrai qu'on est. C'est l'emblème du petit déjeuner français. C'est
absolument.
Sûr,
ouais.
Pas que croissant choucroute, croissant pot-au-feu, c'est connu jusqu'aux États-Unis.
On est d'accord.
Le pain au chocolat étant plutôt ce qu'on mange au goûter.
La chocolatine, vous voulez dire?
Voilà.
On dit pas croissant
chocolatine, c'est parti.
Non, on va tout de suite refermer ce débat pain au chocolat ou chocolatine. On va encore recevoir des tombereaux de mails. Beurre ou ordinaire, droit ou arrondi, mou ou croustillant, quels seraient selon vous les critères du croissant idéal, Marie-Laure Fréchet?
Le croissant, d'abord, il faut le regarder. Donc, un beau croissant, il est doré, il est un peu luisant. Il n'est pas collant, par contre, parce que sinon, ça veut dire qu'il a été badigeonné au sirop de sucre. Il doit être croustillant. Mais il doit pas partir en miettes, il doit pas trop s'émietter, parce que là, ça veut dire qu'il y a eu un problème de cuisson, voire qu'on l'a un petit peu recuit.
D'accord.
Et puis, c'est une belle balance aussi entre le croustillant et le moelleux.
Ah.
Parce qu'il faut aussi qu'il y ait de la mâche, voilà, qui soit effectivement tendre à l'intérieur. Et enfin, un bon croissant, c'est un croissant qui a bon goût. Et en l'occurrence, un bon goût de beurre et pas un goût de gras.
C'est ça. Comment faut-il consommer le croissant? Est-ce qu'il y a un mode d'emploi? Certains s'attaquent à une oreille, à une corne comme ça, et commencent à arracher une première corne. Ouais. Et en général, un bon croissant, cette corne, quand on l'arrache, est suivie d'une espèce de nuage beurré.
Ça,
vous voyez ce que je veux dire?
C'est un bon test, en fait. Quand on tire la corne et que le feuilletage se déroule, c'est un beau croissant, oui.
Vous l'attaquez pas par la languette, au-dessus?
Ah, chacun fait comme
il
aime. Hein.
Encore coupé en deux, ça.
Non. Oui, non, mais c'est ça. Mais c'est tout un art de déguster un croissant sans trop mettre de miettes de surcroît.
Oh, mais c'est aussi le plaisir hein, de s'en mettre un peu partout.
S'il fallait citer, allez là comme ça, je vous prends par surprise, une adresse pour un excellent croissant là où vous auriez vos habitudes, Marie-Laure Faché.
Moi, je suis lilloise, donc forcément, je vais citer un boulanger lillois. Je vais citer Alex Croquet, voilà, qui fait de l'excellente viennoiserie.
Oh là là, Alex Croquet, c'est quand même un
grand souvenir d'émission.
Un grand samouraï de la viennoiserie et du pain français.
Tout à fait, voilà.
Et son
croissant. Il nous écoute, je pense, à cette heure-ci dans son fournil.
Comment vous définiriez son croissant en un mot?
Bah là aussi, c'est effectivement, c'est cet équilibre, en fait. Cet équilibre entre le croustillant et le moelleux qu'on recherche dans le croissant.
Le croissant, pardon. Le croissant, ça, c'est l'effet masque sur la tête. On devine tout juste le sourire sous nos masques bleus. Masque. Oui, c'est ça. Le croissant suscite beaucoup, beaucoup de réactions sur nos réseaux sociaux, sur notre mail, sur le bouton réagir depuis l'appli mobile de France Inter. Éric Morin.
Oui, beaucoup de réactions. Et puisqu'on parlait de poésie tout à l'heure avec Delerme, nous avons un professeur de lettres, Frédéric Lali Baraglioli, qui nous signale un traité qui s'appelle L'influence de l'odeur des croissants chauds. C'est le vrai titre sur la bonté humaine.
Vous connaissez, Marie-Laure?
Tout à fait, oui.
Ah, d'un chercheur qui s'appelle Ruven Augier.
Ouais.
Pardon si je prononce mal. Et en gros, qui nous dit, quand une odeur est agréable, ça monte au cerveau, et notamment celle du croissant chaud, et ça entraîne des sentiments altruistes.
Ah.
Voilà. Et donc peut-être que la paix dans le monde passe par l'odeur des croissants chauds.
Ils auraient dû manger plus de croissants pendant la...
On a fait la même étude
sur
l'odeur du pain chaud, même si le pain ne se consomme pas chaud.
Mais... Donc ça déclenche des récepteurs dans le cerveau.
Exactement, ouais.
Qui inciteraient plutôt à une forme de bienveillance.
Exactement.
Bon, bah écoutez, c'est déjà pas mal, merci beaucoup. Alors, on le disait, le croissant, totem incontournable, qui résume, qui symbolise souvent la France à l'étranger, et pourtant, l'histoire du croissant reste entourée de mystères, de fausses légendes. Finalement, on n'en sait pas vraiment grand-chose, et surtout, on raconte visiblement des histoires qui sont plus ou moins farfelues. Est-ce qu'on pourrait y voir plus clair avec vous? Vous vous êtes penché dans les détails sur cette histoire du croissant dans votre livre « Encyclopédie de la viennoiserie maison » aux éditions Flammarion, Marie-Laure Fraîché.
Alors, on a quand même quelques jalons. Donc, des pâtisseries en forme de croissant, ça existe depuis l'Antiquité. Voilà, depuis l'Égypte, les Assyriens, les Perses, parce que le croissant, ça symbolise la lune. Voilà, donc on a dans l'histoire de la pâtisserie, souvent des pâtisseries en forme de croissant, plutôt biscuitées.
D'accord.
Voilà. Et puis après, on retrouve ce croissant aussi en Autriche, mais plutôt un croissant brioché.
Voilà,
c'est ce qu'on appelle là-bas le Kipferl.
D'accord, avec l'accent.
Voilà, j'essaye, oui. Et puis ce croissant, il est arrivé ensuite chez nous. On va en parler avec un certain monsieur Auguste Zwang, voilà, qui va nous amener la boulangerie viennoise. Et là, c'est là où la France va s'approprier le croissant.
C'est ça. Alors on raconte aussi, il y a cette légende qu'on voit beaucoup dans les livres consacrés à l'histoire de la gastronomie, selon laquelle le croissant aurait été inventé par, comme vous le dites, les boulangers de Vienne au moment du siège des Turcs à Vienne en 1683. Les boulangers auraient donné l'alerte, auraient repoussé l'invasion, et pour commémorer ce fait d'armes de repousser l'invasion turque, eh bien, ces boulangers viennois auraient inventé une pâtisserie qui ressemblait à une petite corne et qui aurait ensuite voyagé jusqu'à Paris pour donner le fameux croissant. Elle est vraie ou elle est fausse, cette légende?
Non, c'est une légende, parce que justement, ce fameux Kipferl, on a des traces de son existence dès le XIIIe siècle en Autriche.
D'accord.
Donc voilà, donc c'est complètement une légende. De
donc
même
on la met à la poubelle.
Voilà, on dit parfois aussi que c'est Marie-Antoinette qui l'a importé en France, et là aussi, on n'a trouvé aucun écrit sur l'existence de croissants à la table de Marie-Antoinette.
En revanche, ce dont on est sûr, c'est de l'existence de cet homme clé dans l'histoire du croissant parisien puis français. Vous l'évoquiez, Auguste Zwang, absolument, qui fut un entrepreneur viennois, tout jeune, moins de 30 ans, débarquant à Paris en quelle année?
1836. En fait, il a une drôle d'histoire. Alors, il commence sa carrière comme un militaire, et puis son père décède, il hérite d'un petit pécule, et il décide de se lancer dans les affaires. Et alors, on ne sait pas pourquoi il décide de lancer une... Il n'est pas du tout boulanger, de se lancer dans la boulangerie à Paris. Mmh. On sait qu'il a fait un précédent voyage, et qu'il a goûté le pain français, et qu'il l'a trouvé fade, dit-il. Donc voilà, donc, il vient en France. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, à Vienne, on est un peu avancé sur les techniques boulangères, notamment grâce à des fours. On a des fours, les fours viennois permettent d'injecter de la vapeur. On est plus avancé aussi dans la maîtrise de la levure. Et puis on utilise une farine qui est plus blanche, plus raffinée. Donc forcément, la qualité du pain s'en ressent. Et puis à Vienne, on aime la pâtisserie. Il y a un art de la pâtisserie à Vienne. Donc dans les boulangeries viennoises, on a déjà des petits gâteaux, des petits biscuits. Ce que nous, en France, on n'a pas à l'époque, parce que la boulangerie française à l'époque, c'est le fournil. On ne va pas acheter ses gâteaux chez le boulanger. Au contraire, dans les petits villages, on amène sa tarte ou sa brioche à faire cuire dans le four du boulanger.
C'est ça.
Donc voilà, donc lui, il se dit, il y a un truc à faire à Paris. Il arrive avec des boulangers viennois et il s'installe au 92 rue de Richelieu.
C'est ça, donc centre de Paris, hein, premier arrondissement.
C'est ça, pas très loin de l'Opéra.
Exactement.
Sauf erreur, n'est pas construit à l'époque. Et puis, donc, il ouvre cette boulangerie viennoise avec un sens du marketing incroyable parce que cette boulangerie, elle est très belle. Enfin, elle est un peu comme les boulangeries parisiennes actuelles avec une belle enseigne, des miroirs un peu partout.
Des plafonds sous verre.
Des plafonds sous verre et des gâteaux et des pâtisseries. Et très rapidement, ça marche d'enfer. Tout le monde se précipite. On a des chroniques de l'époque où on raconte qu'on vient acheter du pain viennois. Et des petits gâteaux, dont certainement ce fameux croissant de l'époque.
C'est ça.
Mais qui, à l'époque, n'est pas du tout notre croissant, qui est un croissant brioché, en fait.
Qui ressemblerait un peu, pour ceux qui ont l'occasion d'aller en Italie et qui mangent avec leur cappuccino au moment de la colazione, le petit déjeuner, le cornetto, qui signifie petite corne.
Tout à fait.
On serait davantage dans l'ancêtre du croissant français, c'est-à-dire un croissant qui a effectivement une forme de croissant, mais qui est plutôt brioché.
Voilà, comme le croissant actuel autrichien. Ou viennois ou allemand, par exemple.
Alors que nous, on a fait plus fort et on est passé à une étape supérieure dans la technique.
Exactement. Donc ça, on ne sait pas trop comment on en est arrivé là. C'est vraiment le savoir-faire, pâtissier, ou sinon boulanger. La pâte feuilletée, on la connaît en France depuis le XVIIe siècle, mais c'est plutôt l'apanage des cuisiniers, en fait. C'est les cuisiniers qui l'utilisent, on pense au vol-au-vent, par exemple.
Antonin Carême.
Et puis, jamais pour elle-même, c'est toujours plutôt un support pour des préparations. Voilà, toujours est-il qu'à un moment, le feuilletage et le croissant viennois se rencontrent, et au début du XXe siècle, vers 1905, apparaissent les croissants feuilletés.
Mais alors,
et un peu partout en France, parce que même en province, on les retrouve.
Et ce qui est curieux, c'est que beaucoup d'historiens se sont penchés sur cette question. Il n'y a pas de nom de boulanger attaché à cette invention du croissant très français, c'est-à-dire à base d'une pâte à la fois feuilletée et levée.
Pas qu'on sache, non, comme on ne sait pas qui a inventé le pain au chocolat ou le pain au raisin, ça c'est des illustres inconnus. Alors, par contre, il faut savoir que donc voilà, toutes ces innovations en boulangerie, elles se répandent très très vite. Quand Zang ouvre sa boulangerie viennoise, donc en 1836, deux ans après, il y a 12 boulangeries viennoises dans Paris.
Absolument.
Et ouvertes par des boulangers français. Et encore aujourd'hui, quand on se balade un peu partout dans Paris, on retrouve cette mention boulangerie viennoise.
Quand je vous ai demandé en préparant cette émission si vous pouviez nous préparer des croissants maison. Évidemment, vous m'avez répondu, mais oui, bien sûr, mais il faudrait 3 heures d'émission, tellement il est compliqué de mettre en place le protocole qui s'étale sur plusieurs jours, qui est donc un processus lent et long. Vos croissants à la maison, ça se passe bien, toutefois, quand vous vous y...
Alors, c'est pas compliqué en soi, en fait. Il faut juste être rigoureux et prendre son temps. Voilà, c'est ça, et comme je le disais tout à l'heure, c'est très simple de les rater, parce qu'en fait, c'est surtout une question de température, en fait. Comme c'est une pâte vivante, c'est une pâte levée, tandis qu'on démarre le feuilletage, la pâte commence à pousser. Donc il faut être vraiment, voilà, travailler dans un fournil ou dans une cuisine où il ne fait pas trop chaud, alors que chez nous, généralement, on est plutôt à 20-21 degrés, donc la pâte commence à pousser. Même dans la façon dont on va tailler la pâte, il faut être très très rigoureux.
Ouais.
Et puis, voilà, observer les temps de repos de la pâte.
C'est ça. Alors pour les plus téméraires, il y a votre livre, encore une fois, qui est un livre de référence, mais pour ceux qui sont un peu plus flemmards ou qui veulent obtenir un résultat plus rapide, il y a d'autres solutions. On va commencer, pour faire plaisir à notre chroniqueuse Elvira Masson, qui n'est pas avec nous en studio, mais qui nous écrit par SMS. J'adore le Bostock. Ma mère m'en achetait quand j'étais enfant, mais on n'en trouve plus, avec un émoji qui pleure. Allez, les boulangers, on veut le retour du Bostock. On veut la définition et on veut savoir pourquoi les boulangers ont abandonné cette spécialité.
Alors, je ne sais pas s'ils l'ont abandonné. Alors, enfin, le Bostock, c'est un peu comme le croissant aux amandes, c'est la viennoiserie du lendemain. Enfin, ça, l'idée, c'est de ne pas gâcher finalement ce beau produit et de le réutiliser, donc en fait, de le resservir quand il est un petit peu rassis, avec une crème d'amande.
Ah, tout simplement. J'adore, un peu comme une galette des rois.
Oui, on peut dire ça. Alors, la crème d'amande, c'est très simple. Hein. C'est 50 grammes de sucre, 50 grammes de beurre, 50 grammes de poudre d'amande et un œuf. Donc, c'est-à-dire 50 grammes d'œuf. On peut l'aromatiser légèrement avec de l'extrait d'amande amère ou un peu de rhum, par exemple. Voilà, on garnit les tranches de brioche ou de croissant et on rajoute des amandes et on fait gratiner.
Oh là là,
ça... 10 minutes.
Ça se passe comment, Éric Morin ?
On ne peut pas parler.
Et puis, c'était l'occasion aussi de remettre en avant cette brioche mousseline qui, elle, pour le coup, a vraiment aussi disparu des boulangeries, qui est cette brioche haute, très très haute, et surtout très beurrée. Voilà, très beurrée.
Oh là, c'est délicieux, c'est pas du tout sec. Vous avez imbibé.
Alors voilà, il y a un sirop aromatisé à la fleur d'oranger.
Quel régal. D'où vient le nom, pardon?
C'est un nom anglais, j'ai pas retrouvé l'origine, donc je lance un appel si quelqu'un a la solution. C'est assez amusant parce que les Anglais considèrent le Bostock comme une spécialité française, mais le nom, a priori, vient d'Angleterre.
Dominique Hutin à la bouche pleine, c'est peut-être le moment de lui donner la parole. J'attendais le moment. Alors, pas sûr que notre chroniqueur nous ait dégoté l'accord du siècle avec le croissant et les viennoiseries. Mais vous allez voir, cher Marie-Laure, vous allez même goûter, qu'il débouche un autre symbole tricolore connu dans le monde entier.
On va déguster sur France Inter.
C'est à vous, cher Dominique.
Eh ben oui, c'est comme croissant et c'est comme cocorico. Évidemment, les circonstances commandaient que je m'habille aujourd'hui en bleu, blanc, rouge. Vous avez vu, jusqu'aux chaussettes, jusqu'aux chaussures.
Je vous admire.
Oui, et vous ne savez pas tout. Pour parler de quoi ? Parler d'une autre icône pareille au croissant, parler du Made in France, celui d'une France viticole, hein, bien sûr, mais plus spécialement de sa terminaison nerveuse, cette espèce de messager qui parcourt la planète chaque année, le troisième jeudi de novembre, celui qui fait voyager un petit peu la marque France, le Beaujolais nouveau, vous l'avez demandé, mais qui rime avec renouveau. Pourquoi ? Alors, normalement, la sortie officielle, c'est cette année, le 19 novembre. Moi, j'ai un peu volé le départ. Je voulais vous livrer en exclusivité pour vous laisser un petit peu le temps, peut-être, de repérer les cavistes, les vignerons, etc. Et vous avez donc en ligne, sur notre page On va déguster, 40 vins dans mon carnet de vignes, avec mes favoris, les prix, les coordonnées, les... Voilà, vous connaissez le rendez-vous maintenant.
Gros, gros travail et gros carnet de dégustation pour tous les amateurs de vin.
Alors, vous avez retrouvé sur le podium des habitués, les Perrault, les Pérols, les Rôtiers, les Chasselets, mais je ne pouvais amener que deux vins en plateau. Deux vins, ça va aller pour votre petit déjeuner. C'est bon, c'est suffisant, François.
Ouais. Pour accompagner le croissant.
Bon, voilà. Donc deux, c'est un peu difficile, c'est un peu comme choisir ses enfants. J'ai pas pris les plus connus, deux découvertes, en tout cas de moi. Frédéric Bern d'abord, avec son Gamay noir. C'est un nouveau qui est très atypique parce qu'il va se boire sur les 4 années qui viennent. Il est dense, il est noir. Il faut le dire, c'est quand même du niveau d'un cru. Alors j'entends par cru les noms que vous connaissez, les Chiroux, les Morgon, les Moulins à Vent, etc., etc. Et puis son total opposé, vous voyez, lui, ça s'appelle... Alors attention, c'est Château Saint-Cyr, ça s'appelle French Kiss.
Ah, et nous l'avons dans nos verres. Alors là, on a carrément l'impression d'une infusion de raisin. On est à la limite d'un rosé ou d'un clairet.
C'est très délicat. Je vous avais promis des vins bleu, blanc, rouge. Là, c'est plutôt bleu, blanc, rose, sensuel. C'est une couleur... Il est pâle, il est transparent, c'est tout en fluidité, c'est succulent. Mais surtout, je trouve que ça ressuscite l'esprit des primeurs. Voilà, l'esprit nouveau retrouvé. Donc ça, c'est respectivement 9 et 10 euros. Et vous trouverez sur notre site donc des vins à partir de 6 euros. Donc, deux valeurs contrastées, mais qui ne suffisent pas à faire du Beaujolais un vignoble arc-en-ciel. Parce que le blanc et le rosé sont très accessoires. Le vignoble, évidemment, est dominé par le rouge et par une manière unique de se raconter au monde. Ce rituel, vous le connaissez, puisque depuis les années 50, des millions de bouteilles sont calées sur la ligne de départ pour une vente en primeur. Ces quilles, elles sont toutes justes, là, elles sont toutes fraîches, toutes jeunes, elles sont nées, elles sont vinifiées, elles sont embouteillées au sortir des vendanges, et elles se préparent à un sprint de junior prépubère. Bah, des vins pour lesquels la promesse d'éternité est un peu contractée en un instant un peu éphémère de plaisir, où en une semaine, elles vont être achetées, bues et, il faut le dire, pissées dans la foulée. Oh, ah oui, je suis obligé de le dire, parce
Dominique,
que c'est vraiment l'espérance de vie qu'il aurait prêté d'ordinaire.
Alors, ami poète.
Il faut le dire quand même, depuis quelque temps, le Beaujolais nouveau a alimenté son propre paradoxe, celui d'une espèce de best-seller absolu, un robinet sans fin, qu'on pensait immortel, hein, il faut bien le dire, et qui finalement s'est un peu mué en fossoyeur pour l'image d'une région, alors que l'époque, elle, réclamait de boire moins, mais mieux. Et aujourd'hui, ces vins, une espèce d'étoile filante, on l'a dit, hein, c'est les vins qui se boivent relativement vite. Eh ben, ces étoiles filantes, elles permettent de formuler un vœu, celui de la qualité. Et ce vœu, il est exaucé, d'abord grâce à un millésime 2020 extrême, de la sécheresse, des toutes petites quantités, mais une grande, grande qualité. Et ce vœu, surtout, il est exaucé grâce à une nouvelle génération de vignerons, qui sont des hommes, des femmes, dont nombre sont engagés dans une réflexion environnementale. Et à ce titre, vous verrez que mon carnet de vignes propose uniquement des vins qui sont bio, mais contient aussi des grandes maisons qui se sont mis un petit peu au pas, des vins bio, des biodynamiques, des vins nature, etc., etc. Alors, avec le retour qualitatif, cette chronique prend une résonance un petit peu particulière. Celle d'un Beaujolais nouveau que l'on peut de nouveau envisager comme un instant décontracté, une parenthèse volée à la folie du monde. Folie du monde qui entasse les hashtags coronavirus, MeToo, président Trump. Vous voyez, quand même, la série était un peu sévère. Monsieur Trump, d'ailleurs, qui s'était distingué, entre autres, par des mesures de rétorsion à l'endroit du vin français.
On s'en souvient.
Donc, résonance particulière, habillée de bleu, blanc, rouge, puisque viennent d'être proclamés les résultats des élections américaines, si je ne me trompe pas. Élections américaines, donc les Américains dont le drapeau partage les mêmes couleurs que le nôtre, si je ne me trompe pas. Je parle sous votre contrôle, hein, vous m'arrêtez si
je
me trompe.
Je pense que vous avez raison.
Voilà. Donc, on peut penser ce Beaujolais nouveau comme un symbole de concorde, un symbole d'unité. Et à ce titre, réclamons son entrée au panthéon tricolore, comme le croissant, comme la baguette, qui sont frères de boulange et de fermentation. Bref, cocorico.
Bravo Dominique Hutin pour cet hommage singulier au Beaujolais nouveau. Vous avez dans votre verre, chère Marie-Laure Fréchet, un French Kiss canon, Beaujolais nouveau du domaine Saint-Cyr. Qu'en pensez-vous?
Moi, je trouve qu'il va bien avec le Bostock, ça réveille un peu le côté.
Ouais, c'est vrai.
Un peu trop sucré du Bostock. Ouais.
Ça vient déposer quelques fruits rouges acidulés.
Voilà, c'est ça.
Sur cette brioche recomposée avec de la crème d'amande qu'on appelle le Bostock.
On est un peu privé de tout ça cette année, mais d'ordinaire, lorsqu'on ouvre les vannes du Beaujolais nouveau, ça se joue à minuit une.
Absolument.
Donc on n'est pas tout à fait décalé dans le timing.
Allez voir également sur notre site internet franceinter.fr à la page On va déguster l'initiative de Camille Guillot, restauratrice avec Alessandro Candido à la tête de Candide, un super bistrot dans le 10e arrondissement de Paris. BeaujolaisNouveauVivant.fr pour tenter de dynamiser les ventes de Beaujolais nouveau à emporter.
Et oui, c'est difficile.
Puisque les restaurants sont fermés, par solidarité avec les vignerons et les vigneronnes du Beaujolais. Voilà, merci beaucoup Dominique.
Si la Sani monani, san monani ninjane. Tina si apilala. Sani monani, san monani ninjane. Tina si apilala. Oh san monani, san monani ninjane. Tina si apilala.
Oubaba, qui veut dire papa en zoulou, un titre de Urban Village, un quatuor folk d'Afrique du Sud, dans la playlist de France Inter. Le croissant, au menu dont on va déguster, et six fameux croissants, attention, on va casser un peu l'ambiance, était un chef-d'œuvre en péril.
France Inter, François-Régis Gaudry, on va déguster.
Un commerçant peut légalement se dire artisan boulanger dès lors que son pain est fabriqué sur place, mais aucune obligation pour les viennoiseries. Très peu de professionnels acceptent d'aborder le sujet.
C'est mon mari qui fait toute la viennoiserie, tout simplement. Il s'occupe du pain et de la viennoiserie.
Pourtant, seul un croissant sur cinq est vraiment fabriqué sur place. Alors, d'où vient le reste ? Essentiellement de l'industrie boulangère.
C'est facile d'acheter tout fait, de mettre au four, on n'a pas de soucis, on est sûr que les croissants sont parfaits, qu'il n'y aura pas d'erreur, machin, mais c'est un peu mentir aux clients et ça me dérange.
Un extrait du JT de TF1, datant du 20 février dernier, qui levait le voile sur l'origine majoritairement industrielle des croissants vendus dans le commerce, y compris dans de nombreuses boulangeries réputées artisanales. L'homme par qui le scandale est arrivé s'appelle Frédéric Roy. Bonjour.
Bonjour, bonjour à tous les auditeurs.
Bonjour Frédéric, vous êtes boulanger-pâtissier à Nice. Pouvez-vous nous présenter votre boulangerie, même si je crois qu'elle est en travaux en ce moment ?
Oui, j'ai fermé une petite semaine pour faire des travaux, justement, puisque j'ai beaucoup de fournitures comme le Negresco ou encore la plage Le Blue Beach. Donc, comme ils ont dû fermer suite au Covid, j'en profite pour faire quelques travaux de réhabilitation dans mon fournil, on va dire.
D'accord, votre boulanger s'appelle le Capitole. Vous êtes rue de France à Nice ?
Oui, absolument. Une petite boulangerie de quartier, comme il y en a tant d'autres en France.
Alors, on a compris que vous étiez en travaux, mais en temps normal, est-ce que vous pouvez juste nous dire combien de croissants vous faites maison par jour et qu'est-ce que ça représente en termes de coûts et de temps ?
Alors, ça représente énormément de temps, hein, puisque comme l'a expliqué Marie-Laure, moi, les croissants, je les fabrique sur trois jours. Le premier jour, on fabrique la détrempe. Le deuxième, on va les tourer, donc donner le feuilleté et les détailler pour leur donner forme. Et on va les laisser lever pendant la nuit pour les cuire le troisième jour au matin.
Dans votre emploi du temps de boulanger, qu'est-ce que ça représente en termes de pourcentage, ce temps passé à faire des croissants à la maison ou dans votre fournil ?
Entre 30 et 40% de mon temps sont consacrés à ma viennoiserie.
Ah, quand même. Ah oui, donc c'est assez colossal. Et à quel prix vous les vendez ?
Alors, le croissant est à 1 euro.
Pour un coût de revient à peu près ?
On est de l'ordre entre 25 et 32 centimes.
D'accord.
Après, en fonction des beurres utilisés, des matières premières utilisées, voilà, on peut avoir une courbe, mais c'est de cet ordre-là, entre 25 et 30 centimes.
Frédéric Roy, on va vous entendre dans un instant sur cette campagne de communication que vous menez depuis quelques années pour défendre le croissant de tradition ou le croissant maison. On va essayer de s'entendre sur les appellations, mais je vous propose pour l'heure d'écouter la plaidoirie de notre avocat Maître Morin qui nous résume les enjeux du croissant dans notre pays. Et Frédéric Roy, vous réagissez juste après.
Sur France Inter, on va déguster.
Il y a les timides qui commencent par la corne, les pudiques qui le découpent morceau par morceau avant de les croquer, les gloutons qui mordent joyeusement à pleines dents, il y a les discrets qui ramassent les miettes du bout des doigts, et il y a les industriels qui se goinfrent.
Ah bon, à ce point ?
Un sacré sujet tabou dans le pays du croissant. Il n'y a pas ou presque plus de tourier préparant une pâte feuilletée, de boulanger sélectionnant lui-même ses farines et façonnant ce sublime croissant, symbole du rayonnement de la France, aux côtés de la baguette et du béret. Il n'y a que Emily in Paris pour y croire encore. D'ailleurs, Emily, on ne dit pas une croissant, mais on dit un croissant.
Merci.
France, que s'est-il donc passé pour que non seulement ton café foute le camp, comme s'exclamait la comtesse du Barry, mais pour que ton croissant aussi ? Eh bien, pour le coup, c'est la faute de l'Europe et de son règlement de 2011 intitulé « Information du consommateur sur les denrées alimentaires », autrement appelé INCO, qui a mis glorieusement au fronton de ses principes que l'étiquetage des produits alimentaires se doit d'être loyal, mais qui a exclu les viennoiseries, les galettes des rois et autres éclairs et flans de l'obligation d'informer le consommateur de leur origine congelée ou non. victoire glaçante, c'est le cas de le dire, des lobbies du croissant prêt à cuire, et immense duperie de nos boulangers vis-à-vis de leurs clients. Parce qu'aucun ne vous le dira. Faites l'essai, vous verrez. Ou mieux, surveillez leur livraison des potrons minés ou leurs poubelles sorties nuitamment. Vous y trouverez des cartons d'emballage fort significatifs.
Une situation peu reluisante. Est-ce qu'il y a quand même des initiatives pour sauver notre croissant?
Alors face à ce scandale étouffé dans le pétrin, des initiatives plus ou moins heureuses ont vu le jour. Dans le centre de la France est né un label Viennoiserie 100% fait maison. La charte Saint-Honoré, Honoré qui doit se retourner dans sa tombe près d'Adville, a lui aussi été créée et dispose d'un solide réseau de boulangers qui s'engagent à faire du 100%. Frédéric Roy nous en parlera tout à l'heure puisqu'il en a été à l'origine. La Confédération nationale de la boulangerie française a elle aussi proposé fin 2019 un label Boulanger de France. Mais le détail de sa charte laisse apparaître un certain flou, apparemment délibérément entretenu, sur les obligations de 100% fait maison de l'ensemble des viennoiseries vendues. Principalement pour ne pas stigmatiser les autres, m'a répondu son secrétaire général. Mais en attendant, c'est le consommateur qui continue à manger flou. Autre initiative, celle du député LREM de Seine-Saint-Denis, Stéphane Testé, qui a interpellé dans une question au gouvernement du 4 février 2020 le ministre de l'économie sur ce défaut d'information. Mais aucune réponse satisfaisante n'a été apportée pour changer les choses et l'image du boulanger de Pagnol continue d'être de moins en moins enfarinée. Et puis, une autre question me taraude. Qu'est-ce qu'il y a dans un croissant? On vous répondra de la farine, oui mais laquelle? Du beurre, AOP ou pas? De l'eau, chlorée, de source, du sel, raffiné ou non? Et encore, je ne parle ici que des produits de base, parce que les produits vendus sur catalogue glacé par des industriels qui louent moult mètres carrés au salon européen qui a lieu chaque année, contiennent parfois de surprenants additifs. D'ailleurs, ils ont tous le même goût, le goût du standard, sans supplément d'âme. Ce qu'il reste du croissant artisanal se perd parce que les croissants industriels permettent au boulanger d'augmenter sa marge, de moins employer de personnes qualifiées au bénéfice de simples vendeurs remplaçables à merci et souvent mal payés, et lui-même de travailler moins, voire de ne même pas être sur place. Et qu'on ne s'y trompe pas lorsqu'un sénateur, dont je tairai le nom, demande que les boulangeries soient autorisées à ouvrir 7 jours sur 7. Elles ont l'obligation de fermer un jour par semaine au moins. Ce ne sont pas aux artisans qu'ils déroulent ce tapis rouge. Ils ne peuvent pas travailler plus qu'ils ne le font déjà. C'est à ceux qui n'ont qu'à déballer un truc congelé, à le mettre dans un four et à l'appeler croissant, dans leur boutique remplie d'autres trucs décongelés et devenus de plus en plus des lieux de restauration rapide. Alors, mélangeons, pétrissons, façonnons, replions, abaissons, tournons, reposons, enroulons, dorons et dégustons du croissant artisanal, du vrai et du bon.
Ah, d'ailleurs, on sent un sachet papier duquel va certainement sortir
un croissant. Alors, j'ai pas eu celui que je voulais parce que j'ai eu un grand coup de cœur pour celui d'une boulangerie restauration de cuisine israélienne Maffine, rue des Forges, dans le deuxième. Mmh. Un croissant consistant aéré. C'était un vrai coup de cœur. Alors, ce matin, je suis allé à la boulangerie de la rue du Nil, tout à côté. C'est une farine T65. C'est du beurre de Bresse AOP. C'est la dernière appellation d'origine beurrière, le beurre de Bresse. Et voilà, je vous en laisse.
Il est bon et bien beurré.
Le plaisir de le déguster.
Assez suave, délicieux. Merci beaucoup. Frédéric Roy, vous avez mis les pieds dans le plat il y a quelques années. Vous êtes même mis une partie de la profession à dos en dénonçant l'origine industrielle de près de 8 croissants sur 10 achetés en boulangerie. Vous avez écrit une lettre au Premier ministre Édouard Philippe. Vous avez lancé une pétition sur change.org qui a recueilli combien de signatures?
171 000.
Ce qui s'appelle un succès.
Oui, disons que ça a permis de débloquer et d'ouvrir certaines portes, même si on n'a pas pu aller là où on aurait souhaité. Donc, puisqu'on a en face de nous les lobbies industriels et qui sont très compliqués à faire plier.
Comment expliquez-vous qu'autant de confrères aient cédé à la facilité d'acheter des croissants industriels surgelés, de les faire cuire sur place en 15 minutes?
Alors déjà, ce que je dénonce, c'est non pas que 8 artisans sur 10 utilisent des produits industriels. Ce que je dis, c'est que 80% de la viennoiserie vendue en France est d'origine industrielle. D'accord. Et ça me rend fou dans le pays de la gastronomie. Puisqu'on a une image quand même à l'extérieur, j'ai eu la chance de vivre 4 ans aux États-Unis. Et là-bas, je me suis rendu compte à quel point cette viennoiserie française a de l'importance. Mais pour en revenir à votre question, ça a démarré dans les années 70. À l'époque, j'étais à ma naissance. On vivait encore, quand on allait à la boulangerie, qu'avec des produits 100% faits maison. Mmh. Et fin des années 70, on a commencé à voir arriver des viennoiseries dans les points chauds, la marque Point Chaud. Et de là, ils se sont dit, ces gens-là, pourquoi on s'arrêterait à vendre que dans nos magasins ce que l'on fabrique? De là, ils ont commencé à envoyer des commerciaux dans des boulangeries. Et on va dire, début des années 80, c'est là qu'est vraiment rentré sérieusement la viennoiserie industrielle chez les artisans, petit à petit. C'est vraiment un chemin qui s'est fait très doucement jusqu'à avoir l'implantation qu'on connaît aujourd'hui dans les boulangeries. Mais encore là, c'est un problème parce qu'on dit boulangerie, pâtisserie, mais c'est quoi une boulangerie, pâtisserie, puisque même les chaînes dans lesquelles on sait qu'ils vendent des produits industriels et uniquement ça, ont le même code APE que nous, artisans. Donc ça aussi, on le dénonce. On n'a vraiment pas de juridiction ni de mur fondé pour nous protéger, en fait, au jour d'aujourd'hui.
C'est ça. Vous avez quand même monté une association, loi 1901, en 2017, qu'évoquait à l'instant Éric Morin, régie par la charte Saint-Honoré, dans laquelle les boulangers s'engagent à fabriquer leur pain et leur viennoiserie à la maison. Il y a une carte, d'ailleurs, qui est consultable. On a mis toutes les références sur le site internet. Il y a 900 boulangeries référencées dont on est sûr qu'ils font leur viennoiserie et leur croissant à la maison. Sinon, quels sont les moyens pour un consommateur qui rentre dans une boulangerie de distinguer un croissant artisanal d'un croissant industriel? Est-ce qu'il y a des détails, des trucs, des critères, ou c'est le flou total?
Alors, déjà, l'instigateur de notre charte Saint-Honoré, c'est Michel Cornille. C'est lui qui est à l'origine de ça. Moi, je l'ai rejoint après et j'ai réussi à apporter la carte, donc ma boulangerie artisanale, sur Internet. Donc, des critères pour retrouver un véritable croissant, fait maison ou pas, ben il n'y en a pas. Donc, ce sera surtout la confiance que vous avez entre vous et votre commerçant. Mais c'est vrai qu'on vit dans une société où ce qu'on appelle un client fidèle, c'est plus le client fidèle qu'on a connu il y a 30 ans, puisqu'on a tous une vie différente, tout le monde court dans tous les sens. Donc, hélas, aujourd'hui, on va considérer qu'un client fidèle, le client fidèle représente environ 30% de la clientèle, ce qui veut dire que 70% c'est des clients qui vont venir un jour, pas l'autre, etc., en fonction de son train de vie. Et les gens ne venant pas toujours chez le même artisan, ils n'ont pas de point de repère, il n'y a pas de point de repère. Mais le principal argument, je vais dire, pour détecter un bon croissant, c'est celui qu'on va se faire plaisir à manger, parce qu'on doit se faire plaisir à manger un croissant. Comme l'a expliqué Marie-Laure tout à l'heure, chez moi, ce que je recherche dans mon croissant, c'est qu'il soit croustillant à l'extérieur et bien moelleux à l'intérieur.
Mais alors,
et qu'il ait du goût.
Mais je parle et je pose la question également à Marie-Laure Fréchet. Tout le défi, et ce qui est compliqué, même pour nous, journalistes, dégustateurs professionnels, lorsqu'on nous met sous les yeux des croissants à l'aveugle, bien malin celui qui saura reconnaître le croissant artisanal, parce que les industriels arrivent à faire tout de même illusion. C'est plus compliqué que pour d'autres totems gastronomiques, où là, pour le coup, la différence entre les versions artisanales et industrielles sont très faciles à repérer. De surcroît, il y a des choses qu'on ne sait pas, c'est notamment cette longue liste d'additifs que l'on peut trouver dans les croissants industriels sans que le consommateur en soit informé, Marie-Laure Fréchet.
Oui, voilà, le mot a été dit et c'est vraiment une question de confiance. Parce que, effectivement, esthétiquement ou même au niveau de la dégustation, c'est difficile de faire la différence entre un croissant maison et surgelé. Et encore une fois, finalement, ce n'est pas la surgélation qui pose un problème. Parce que même l'artisan qui utilise des beaux produits et qui fait son croissant dans les règles de l'art, il arrive qu'il le surgèle. C'est tout à fait dans l'ordre des choses.
Et ça ne change pas grand-chose à la qualité du produit final.
Et ça permet de réguler sa production. Donc, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que pour que ces croissants surgelés puissent survivre à la surgélation pendant parfois presque une année, voilà, on va rajouter des additifs. Et la liste peut être parfois longue. Voilà. Donc là, je me suis amusée, j'ai pris un fournisseur lambda pour la boulangerie professionnelle. Alors, si on prend la liste des ingrédients, bon, la farine évidemment, margarine. Déjà, on se pose la question, c'est pas du beurre. Margarine, graisse hydrogénée, huile de palme, etc. De l'eau, du sucre, etc. Du lait, ok. Et puis arrivent les additifs, émulsifiant, acidifiant, conservateur, arôme et colorant, anti-agglomérant, stabilisateur, émulsifiant, antioxydant.
Et tout cela, soyons clairs, à l'insu
du consommateur.
Voilà.
Donc évidemment,
au moins les industriels, lorsque l'on achète des produits industriels en supérette ou dans une grande surface, on a une liste exhaustive de tous les additifs, etc.
Et comme, Là, ce n'est pas le cas. Comme en fait le croissant est vendu en vrac, il n'est pas emballé, légalement, on n'a pas obligation de stipuler la liste de tous les ingrédients.
Frédéric Roy, vous activez énormément, vous faites un sacré lobbying, vous vous faites connaître médiatiquement et vous avez tout à fait raison. Est-ce que vous avez de l'espoir? Est-ce que les choses, vous sentez qu'elles bougent? J'imagine que cette période de confinement-là va pas tellement en faveur de votre combat.
Alors, si, justement, c'est tout l'inverse. Ah. Justement, le Covid-19 a fait prendre conscience aux Français qu'il fallait retourner chez son artisan, chez son légumier local, faire travailler nos paysans, parce qu'on s'aperçoit que finalement, en France, on a tellement perdu de choses qu'il est de plus en plus compliqué de retrouver du local, des valeurs, de la tradition, des racines, que c'est le Covid qui a fait prendre conscience qu'on avait quand même un malaise en France. On importe beaucoup trop en France. On doit importer moins et consommer plus local. Et comme je vous ai dit, local, ça veut dire la confiance. La confiance chez son légumier, la confiance chez son boucher, la confiance chez son artisan boulanger. Il faut parler avec votre artisan. Parce que au-delà du fait de la nourriture, il y a aussi le lien social qui est indéfectible de nos métiers. Et on s'en rend compte. Moi, je m'en suis rendu compte pendant le Covid. J'avais des coups de fil de petites mamies du quartier qui me demandaient si je pouvais leur porter le pain parce qu'elles avaient peur de sortir dehors. Ce ne sont pas nos industriels qui vont le faire, ça. Donc nous, on se bat aussi pour ça. C'est pas seulement les produits, c'est tout ce qui va autour.
Mais dernière question, Frédéric Roy, s'il vous plaît. Est-ce que vous sentez qu'au niveau des pouvoirs publics, les choses vont changer? Est-ce que vous sentez qu'il y a une inflexion? Est-ce que les pouvoirs politiques ont envie de prendre le problème par les cornes et ce croissant justement par les cornes?
En communication, oui, sur le terrain, beaucoup moins. Ah. Je sais que moi, je suis à titre personnel, puisque justement, je les démarche énormément. J'ai encore rencontré la députée européenne Sylvie Brunet il y a un mois, puisque au sein de notre association, on avait demandé à rendre obligatoire la mention industrielle sur tous les produits vendus en boulangerie-pâtisserie qui ne sont pas artisanaux. La réponse, elle a été, on va dire indirectement, vaseuse, dans le sens on n'est pas contre, mais on n'est pas pour, on veut pas mettre les lobbies contre les artisans, autrement dit, on ne fait rien et on continue à patauger. Donc, elle m'a proposé d'autres pistes qu'on est en train d'étudier avec ses attachés parlementaires, parce qu'on lâchera rien, de toute façon. Donc, l'idée est de retourner sur les appellations qui sont reconnues au niveau européen comme tradition.
C'est ça.
Il y a des produits qui ne peuvent pas être AOP, comme un camembert, il peut obtenir l'appellation tradition. Ça veut dire qu'il sera sans additifs, sans conservateurs, il aura vraiment été fabriqué dans les règles de l'art.
Merci beaucoup. Frédéric Roy, on arrive au terme malheureusement de cette émission, on est obligé de vous abandonner, mais comptez sur nous pour continuer à suivre vos initiatives et surtout la situation du croissant dans notre pays. Merci beaucoup.
Merci à vous, merci à tous.
Et à très bientôt.
Bientôt.
On termine avec une petite touche quand même un peu dégustatoire, hédoniste, épicurienne, avec ce chinois. Il vous reste une poignée de secondes pour évoquer cette viennoiserie, chère Marie-Laure Fréchet, qui se trouve dans votre très belle encyclopédie et que l'on peut faire à la maison.
Oui, on a beaucoup parlé du croissant, mais la viennoiserie, c'est aussi tout l'univers des brioches, et notamment toutes les brioches régionales. Et là, j'ai choisi le chinois. Alors, il a un nom rigolo, parce que pourquoi on l'appelle chinois? Parce que c'est à l'origine une pâtisserie allemande. Son vrai nom, c'est Schneckekuchen. Autant dire, c'est du chinois, quoi. C'est imprononçable.
Ça veut dire brioche à l'avocat, je crois, Eric Morin.
Et puis aussi, voilà, on dit qu'il il était fait autrefois avec un petit agrume confit. Et cet agrume s'appelait le chinois.
Ah bah voilà.
Voilà.
Donc c'était le surnom de l'agrume qui servait à sa fabrication.
Exactement.
Il a une forme assez ronde avec différentes pelotes de pâtes.
Oui, c'est ça. C'est des pâtons de brioche roulés avec de la crème pâtissière et des raisins.
C'est ça.
C'est très gourmand.
Et en un mot, les étapes principales?
Très simple, c'est de la pâte à brioche, une crème pâtissière, voilà. Un peu le principe de la babka, là, en ce moment, qui est très à la mode, sauf que là, on le roule, on fait des petits roulés sur... on roule cette brioche et puis on la cuit dans un moule.
La recette est à retrouver sur franceinter.fr à la page où on déguste. Vous avez de l'espoir ou pas pour retrouver dans notre pays, un peu partout, de la viennoiserie vraiment artisanale, des brioches au croissant, en passant par les pains au chocolat?
Bien sûr, parce qu'à l'image du pain qui a beaucoup évolué ces dernières années, on se penche à présent maintenant effectivement sur les ingrédients de la pâtisserie, dont la viennoiserie. On a par exemple maintenant des exemples de pâtisserie, enfin de viennoiserie au levain par exemple. C'est très intéressant aussi.
Parce qu'il est vrai que le pain nature vraiment se répand et fait des émules partout en France. On se dit quand même qu'il serait temps que la viennoiserie suive ce mouvement de la naturalité.
Donc des viennoiseries au levain, au beurre cru, enfin voilà, des choses très intéressantes.
Avec des farines propres et éthiques. Encyclopédie de la viennoiserie maison. Marie-Laure Fréchet, on peut citer quand même Valérie Lhomme qui a fait de formidables photos, ainsi que Bérangère Abraham pour le stylisme.
Pour son stylisme, voilà, superbe.
Et c'est aux éditions Flammarion. Procurez-vous cette encyclopédie très importante. La semaine prochaine, au menu dont on va déguster, une rencontre avec le chef 3 étoiles Michel Guérard, que je suis allé voir auprès d'Eugénie dans les Landes. Et des recettes de confins et de réconfort avec deux cuisinières débordant de bonnes idées et de stratégies culinaires. Johanna Kaufmann et Annabelle Chacmès, Elvira Masson et Antoine Gerbel seront dans les fauteuils des chroniqueurs. Merci Eric, merci Dominique, à la prochaine.
À bientôt.
Merci Marie-Laure Fréchet, à dimanche prochain si vous avez encore faim.